Il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil. Et nous débutons par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Avant l'hommage national demain au gendarme Arnaud Beltrame, polémique sur le suivi de Radouane Lakhdim, l'auteur des attentats de l'Aude, était suivi par les services de renseignement en mars, cela ne l'a pas empêché de passer à l'acte. La droite et le Front National réclament le rétablissement de l'état d'urgence, inutile selon certains spécialistes de l'antiterrorisme.
Et puis Washington et les Occidentaux expulsent 116 diplomates russes après l'empoisonnement d'un ex-agent russe au Royaume-Uni, attribué par Londres à Moscou. Les États-Unis ont annoncé lundi la plus importante expulsion d'espions russes de l'histoire.
Alerte sur la planète, 50 à 700 millions de personnes seraient contraintes à migrer d'ici 2050 à cause de la détérioration des sols, du changement climatique et de la perte de la biodiversité. Les abeilles sont en danger. Emmanuel Macron déroule le tapis rouge au grand patron et tient salon industriel à Paris Nord, Villepinte, une manière de promouvoir ses réformes pour l'investissement. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal dans son billet économique.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour, déficit public sous les 3%, la France est-elle devenue une bonne élève? Eh bien, on posera la question à Renan Mailleux, chef du département des comptes nationaux à l'INSEE.
Radouane Lakhdim était suivi par les services de renseignement, mais rien ne permettait de mettre en évidence des signes précurseurs d'un passage à l'acte. C'est ce qu'a expliqué hier soir François Molins, le procureur de la République de Paris. Alors que l'enquête sur les attentats de l'Aude de vendredi dernier se poursuit, prolongation de la garde à vue de la compagne du tueur et de l'un de ses amis, un mineur de 17 ans, de nouveaux éléments détaillés par Florence Turme.
Redouane Lakhdim, fiché S depuis 2014, faisait toujours l'objet d'un suivi effectif des services de renseignement en raison de ses liens supposés avec la mouvance salafiste locale. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé des couteaux, un sabre, plusieurs supports numériques, ainsi qu'un texte pouvant faire penser à un testament. Sa compagne, âgée de 18 ans, n'a aucun antécédent judiciaire, mais elle faisait aussi l'objet d'une fiche S. Elle a d'ailleurs indiqué s'être convertie à l'âge de 16 ans. Son comportement lors de son interpellation ne laisse aucun doute sur sa radicalisation, précise François Molins, le procureur de Paris.
Âgée de 18 ans, elle indique s'être convertie à l'âge de 16 ans et présente tous les signes d'une radicalisation. Elle a crié « Allahu Akbar » lors de son interpellation par les policiers. L'examen de sa téléphonie révèle qu'elle n'a plus de contact téléphonique avec Redouane L depuis le mois de janvier 2018. Mais pour autant, les éléments de l'enquête permettent d'envisager une éventuelle poursuite d'échanges entre eux, donc Redouane, elle et la jeune femme, via des applications sécurisées. Il est en outre établi qu'elle a posté, le 23 mars à 6h du matin, une sourate indiquant que les mécréants étaient promis à l'enfer. Elle conteste à ce stade avoir été informée et associée au projet mortifère de son petit ami.
Sa garde à vue a donc été prolongée, tout comme celle de ce mineur de 17 ans impliqué dans des affaires de violence et de détention de stupéfiants. Apparemment, le terroriste exerçait une forte influence sur lui, mais il conteste toute implication dans les attentats.
Et après les attaques djihadistes de Carcassonne et de Trèbes, Laurent Wauquiez dénonce, je cite, « la coupable naïveté d'Emmanuel Macron ». Le patron du Parti Les Républicains réclame le rétablissement de l'état d'urgence et l'expulsion des étrangers fichés S. Une demande également formulée par le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Au Front National, Marine Le Pen parle, elle, d'une défaillance profonde des autorités dans la lutte contre le terrorisme et elle réclame la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Mais pour l'avocat Patrice Spinozzi, qui défend notamment la Ligue des droits de l'homme dans son combat contre la nouvelle loi antiterroriste, cette surenchère politique et le rétablissement éventuel de l'état d'urgence n'ont aucun intérêt.
L'état d'urgence a été quasiment dans sa totalité intégré dans la législation antiterroriste, précisément par la loi nouvelle. De la même manière, la question de l'éventuelle rétention ou internement des fichiers, cela est totalement absurde. Il y a eu d'ores et déjà des avis qui ont été donnés par le Conseil d'État en la matière qui disent que cela est totalement contraire à l'ensemble des engagements internationaux de la France. Donc aujourd'hui, l'arsenal juridique est largement suffisant et les personnes qui prétendent le contraire ne sont que des politiques qui cherchent à utiliser la peur des Français pour essayer de tirer parti d'une situation extraordinairement dramatique qui est aujourd'hui celle d'une France qui continue à être menacée par le terrorisme.
Maître Patrice Spinozzi, avocat notamment de la Ligue des droits de l'homme, il répondait à Stanislas Vazak. C'est demain que se tiendra aux Invalides la cérémonie d'hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Tué la semaine dernière à Trèbes, le chef de l'État prononcera l'éloge funèbre de ce gendarme érigé en héros pour avoir pris la place d'une otage vendredi dernier. Deux personnes sont en garde à vue après le meurtre d'une dame de 85 ans vendredi dans le 11e arrondissement de Paris. Mireille Knoll avait échappé à la rafle du Veldiv. Elle a été retrouvée poignardée de plusieurs coups de couteau dans son appartement en flammes, un incendie criminel à quelques centaines de mètres de l'endroit où Sarah Halimi, une autre femme juive, avait été défenestrée il y a un an. Mireille Knoll avait déposé plusieurs mains courantes contre l'un de ses voisins qui avait menacé de la faire brûler. Le parquet de Paris a retenu le caractère antisémite du meurtre. Sylvie Charbonnier.
Le meurtre de Mireille Knoll, un an après le meurtre à caractère antisémite de Sarah Halimi, des agressions qui se multiplient contre les Juifs. Pour le grand rabbin de France, Haïm Korsia, il ne faut pas passer ce phénomène sous silence.
Les chiffres montrent qu'il y a plus de violence dans les actes antisémites en France. La partie actes violents a augmenté l'an passé. Donc si ça a augmenté, c'est que ça dénote quelque chose. Et encore, on mesure que la partie visible, c'est-à-dire ce que les gens déclarent. Je pense qu'il y a une alerte, il y a un niveau d'alerte, mais je crois qu'on peut réellement lutter contre quelque chose que si on ose en parler. C'est une grande règle.
Dans la communauté juive de France, l'inquiétude augmente avec le nombre des agressions, ce que dit le député des Français de l'étranger, Meir Habib.
Évidemment, il y a une immense inquiétude chez les Français juifs, que lorsqu'on commence par des juifs, après on s'attaque à toute la France. Il y a eu l'hyper-cacher, et puis après il y a eu l'attentat du Super-U. C'est ça la triste réalité. Les Français juifs sont en première ligne. En finale, les Français juifs sont visés, puis après on vise la France. J'ai une immense inquiétude, évidemment, pour les Français juifs, mais aussi pour la France.
Une marche blanche est organisée à Paris à l'appel du CRIF, à la mémoire de Mireille Knoll.
7h06 sur France Culture, la suite des matins de France Culture avec le journal de Catherine Dutu et le monde replonge au temps de la guerre froide. Représailles coordonnées du camp occidental après l'empoisonnement d'un ex-agent russe au Royaume-Uni.
C'était au début du mois et Londres a rapidement accusé Moscou d'être derrière cet empoisonnement et aujourd'hui, ce sont au moins 116 diplomates russes qui doivent être expulsés de 23 pays différents. À commencer par les États-Unis, Washington veut refouler une soixantaine de personnes qui représentent la Russie dans diverses missions dans le pays, dont une douzaine auprès de l'ONU. Fermeture du consulat de Russie à Seattle. Par ailleurs, sur la côte ouest, il serait trop près de la plus grosse base de sous-marins nucléaires américains. Selon la Maison-Blanche, il s'agit de la plus importante expulsion d'espions russes de l'histoire. Et dans l'Union européenne, la liste ne cesse de s'allonger. Une trentaine de diplomates russes se sont déjà vus signifier leur expulsion par 14 États membres, Pierre Benazé.
Ces expulsions en cascade ont été formellement annoncées par Donald Tusk, le président du Conseil européen, pour souligner la solidarité avec le Royaume-Uni et la coordination issue du sommet européen de la semaine dernière. Donald Tusk annonçait d'ailleurs que ce n'était pas fini, et effectivement, la Hongrie puis l'Espagne ont elles aussi annoncé hier soir des expulsions de diplomates russes. Parmi les pays qui n'ont pas rejoint le mouvement, certains l'envisagent, comme la Belgique, dont le gouvernement doit aujourd'hui étudier la question. L'Autriche affirme quant à elle vouloir décliner pour cause de neutralité, mais deux des autres pays neutres, la Finlande et la Suède, ont de leur côté décrété des expulsions et l'Irlande affirme mener une évaluation des diplomates russes à Dublin. L'Ukraine et la Norvège annoncent aussi des expulsions et l'Islande promulgue un boycott diplomatique pour la Coupe du monde de football en Russie. Pour le Royaume-Uni, c'est une victoire diplomatique inattendue que ce soutien de ses partenaires européens. D'autant plus que ceux-ci considèrent uniquement comme hautement probable l'implication russe.
Pierre Benazé à Bruxelles pour France Culture. C'est une directive européenne qui l'exige, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, la fin du monopole de la SNCF. Une proposition de loi sur le sujet est examinée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Des scandales comme LuxLeaks, les Panama Papers ou l'affaire du Mediator pourraient-ils être portés à la connaissance du grand public si les entreprises ont davantage de moyens pour poursuivre en justice ce qui les dénonce, c'est l'inquiétude d'un certain nombre d'ONG, d'avocats et de lanceurs d'alerte alors qu'une proposition de loi sur le secret des affaires arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, transcription d'une autre directive européenne adoptée et déjà décriée il y a 2 ans. On y revient dans le journal de 7h30. Greenpeace va porter plainte contre la députée En Marche Perrine Goulet pour incitation au meurtre. L'élu LREM avait recommandé jeudi dernier de tirer en cas d'intrusion dans une centrale nucléaire. Pourquoi ne ferions-nous ou pas, un peu comme aux États-Unis, avec une sécurisation par mirador et la possibilité effective de ne pas se poser de questions quand il y a une intrusion, de tirer. S'était interrogé Perrine Goulet, qui est membre de la commission d'enquête sur la sûreté nucléaire. Ses propos sont graves et indignes d'une élue de la République, estime Greenpeace, pour qui suggérer de tirer sur des militants non violents ne résoudra en rien le manque de sécurité dans les centrales nucléaires d'EDF. 50 à 700 millions de personnes contraintes à migrer d'ici 2050 à cause de la détérioration des sols de la planète. Dans un rapport inédit, fruit d'un travail sur 3 années, des dizaines de scientifiques ont alerté hier sur les conséquences du changement climatique, de la perte de la biodiversité et donc de la détérioration des sols. 3 facettes du même défi important, l'impact de plus en plus dangereux de nos choix de vie sur notre environnement naturel. La généralisation des pratiques agricoles en remède pour aider les sols contre la détérioration. Et les abeilles peuvent compter sur 120 députés en France de tous bords pour tenter de les sauver. Les apiculteurs prévoient de rappeler les élus de la République à leurs obligations à l'occasion d'une rencontre aujourd'hui à l'Assemblée. En septembre dernier, l'État s'était engagé à interdire les insecticides néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Mais le gouvernement prévoit de délivrer des dérogations jusqu'en 2020. Ce contre quoi s'élèvent les apiculteurs, comme Henri Clément, qui travaille dans les Cévennes et qui est porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française.
Aujourd'hui, on est toujours avec un taux de mortalité qui est d'environ 30% par an, c'est-à-dire qu'en France, il y a à peu près 1 200 000, 1 300 000 colonies. Il y a à peu près 300 000 colonies d'abeilles qui disparaissent chaque année et pour lesquelles les apiculteurs sont obligés de faire de gros efforts pour les reconstituer. Donc, soyons très clairs, si les apiculteurs ne reconstituez pas les cheptels de colonies d'abeilles aujourd'hui, on serait d'ores et déjà à manque d'abeilles sur notre territoire.
Qu'est-ce que vous attendez des élus de la République ?
En 2017, on a réussi à obtenir la loi sur la biodiversité qui a fait en sorte qu'en 2018, les néonicotinoïdes seraient interdits avec uniquement des dérogations en 2020. On espère que cette interdiction sera véritablement appliquée. Et que d'autre part, les nouveaux néonicotinoïdes, parce que aujourd'hui les firmes, comme elles savent que ce terme néonicotinoïde porte à critique, elles les appellent autrement. Mais en réalité, ce sont des néonicotinoïdes. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que les pouvoirs publics, le ministère de l'Agriculture, interdisent l'ensemble des néonicotinoïdes, comme c'est prévu dans la loi biodiversité. Voilà. On a trop tardé. On est des apiculteurs, on n'a pas une trame de force en termes de lobby, mais eux, ils sont présents partout, à Bruxelles, à Paris, et donc ils font le maximum pour gagner du temps, pour continuer à intoxiquer, à empoisonner notre environnement, quitte à tuer les abeilles, à tuer les oiseaux, les vers de terre, etc., pour faire du pognon. Et ça, il faut que ça cesse.
Henri Clément, apiculteur dans les Cévennes, porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française, il répondait à Véronique Reberotte.